Radio Okapi à Uvira sur 105,2 FM.
À Fizi, les autorités du secteur de Tanganyika viennent d'initier les travaux de traçage d'une route de dessert agricole. Celle-ci va de Lusenda vers le moyen plateau de Fizi. Lancée depuis 2 mois, ces travaux visent à relier le secteur de Tanganyika sur un trajet de 60 km avec des villages réputés riches et très fertiles en produits agricoles. Près de 80 personnes sont engagées pour exécuter ce projet. Les autorités du secteur comptent tracer plusieurs autres routes afin de permettre la circulation des produits agricoles. Fiston Goma, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour JR et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Alors quel est ce grand projet qui est en cours d'exécution dans le secteur de Tanganyika, en territoire de Fizi?
Oui, vous l'avez déjà dit JR, c'est un projet qui consiste à ouvrir quoi, une route de dessert agricole. Donc c'est une route qui part de Lusenda à peu près 40 km au sud de la cité d'Ouvir en territoire de Fizi et qui va aller jusqu'à Abala vers le moyen plateau dans le croisement d'une autre route qui part de Fizi centre à Minembwe dans le haut plateau. Donc c'est une route qui mesure 54 km. Les travaux ont débuté depuis le 12 février dernier. La population a déjà travaillé sur un projet de sur un trajet de 6 km. Donc, il faut pratiquement 6 mois depuis le 12 février pour que les travaux prennent fin. Les travaux consistent donc à désherber, à élargir la route. Nous avons contacté le chef de secteur qui estime que c'est une route qui va raccourcir les contours des 100 km qui va de Mboko en passant par Baraka, par Fizi. Et cette route va servir à pacifier les différentes communautés qui vivent dans la région. Donc, ça va passer par le village Kabimbwe, Mugono, Mugorore, les villages habités notamment par la communauté Banyamulenge, et puis par le village Kilumbi qui est habité par les communautés Babembe, Bafuliru, Banyindu ainsi que Nakele avant d'atteindre Abala Jir.
Alors peut-on savoir quels sont les moyens engagés pour ces travaux?
C'est à partir de recettes locales, en plus de la rétrocession obtenue par le chef de secteur au niveau de la province. Donc, d'autres partenaires, notamment les ONG, ne sont pas encore associés à ces projets. C'est ce que nous a déclaré John Mulondani, que nous avons contacté sur place à Mboko.
Mais pourquoi est-ce que pourquoi les acteurs locaux ont pensé à ces projets aujourd'hui?
Bon, selon les acteurs locaux, c'est juste pour faciliter l'écoulement des produits agricoles, comme vous l'avez dit au début, dans vu la carence alimentaire qui sévit dans le milieu, surtout dans le littoral du lac Tanganyika Mboko. Les acteurs locaux affirment que le café, la banane, le maïs, les haricots sont produits en grande quantité à Kilumbi, à Nakele, à Bala, à Bembwe et à Bibokoboko dans les hauts et moyens plateaux du secteur de Tanganyika. Donc, les producteurs trouvent des sérieuses difficultés des fois à évacuer ces produits sur la tête ou bien au dos vers les grands centres de consommation qui sont notamment Mboko, Baraka, Lusenda et Tchone dans le littoral. Donc, au niveau du littoral, la population pratiquait depuis un certain temps la culture des palmiers à huile. Et cette culture a pratiquement occupé beaucoup d'espace qu'aujourd'hui on n'a plus d'espace pour trouver d'autres terrains cultivés.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les difficultés que rencontrent les initiateurs dans l'exécution de ce projet?
Bon, d'abord la prise en charge de personnes engagées dans ces travaux. Il y en a déjà 84 ouvriers, y compris les techniciens, les topographes, des fortunes qui ont été recrutées sur place. Et la supervision se fait par le chef de secteur lui-même. Donc, chacun d'eux reçoit $1 journalièrement pour la ration et $2 à la fin du mois comme prime de motivation à la fin du mois. Donc, d'autres difficultés sont évoquées ici par le chef de secteur, John Mulondani. Je vous propose de l'écouter.
C'est encore une aide morale et technique. Jusque-là, il n'y a pas encore d'aide supplémentaire à la rétrocession que nous devons avoir. Nous lançons un appel à tout le monde et pris des bonnes volontés, du développement, de pouvoir nous venir en aide puisque les moyens que nous avons, les dons, les assistances sont les bienvenus pour que nous puissions aboutir de ces projets-là. Nous sommes bités à un problème sérieux des ouvrages de franchissement, les ponts, des caniveaux que nous devons construire. Alors que nous n'avons pas encore des moyens suffisants, c'est pourquoi nous voudrions bien que les humanitaires puissent nous venir en aide supplémentaire. Les difficultés étaient trop énormes, non seulement l'écoulement des produits, mais la circulation qui était aussi pénible, puisqu'on devait circuler qu'à pied. Voilà les grands problèmes que nous avons eu.
Alors, et que dit la population locale? Est-ce qu'elle a, adhéré à ce projet?
Bon, il y a une certaine adhésion massive. D'ailleurs, la population dit être impatiente quoi, de voir ces travaux se terminer pour désenclaver la cité de Mboko. Toutefois, les habitants n'excluent pas aussi des doutes sur l'aboutissement de ces projets, étant donné qu'ils n'ont pas encore vu les autorités territoriales ou provinciales s'impliquer totalement et soutenir les efforts locaux qui sont déjà déployés au niveau du secteur de Tanganyika. Je vous propose d'écouter cet habitant de Mboko.
Ni tunaweza kushukuru sana kupata ile barabara sababu unajua watu wenye kwa kule milimani kwa kusema eti ile chakula inacholimwa kule kufika barabarani ni shida na ile barabara ikiwa pale yani ile chakula inafika barabarani kwa haraka na yule mlimaji anapata nguvu na yule vile vile mchuuzi vile vile anapata faida kwa urahisi. Tunashukuru sana, tunapendelea zaidi.
Mwe raia mnaleta mchango gani?
Mchango wetu kwanza sisi ni wakulima, ule ni mchango wetu, na pamoja na ule ukulima wetu na taratibu fulani fulani za ile barabara na sisi tutachangia mule ndani.
Sasa serikali inaweza kusaidia kwa nini?
Serikali kwanza tunataka ile barabara serikali isimamie. Sababu serikali kisha isimamia ni vile tunapata nguvu zaidi. Unajua nguvu za raia bila serikali haiwezi kuendelea. Hatujaona sababu hatujaona matendo kamili kamili kama vile tumeagwa na serikali. Kwa mini kwetu sababu tulisha danganya siku nyingi. Na vile unajua mtu akishadanganya siku nyingi kwa mini kwake ule mtu ni lazima aone na aguse kile kitu moja kwa moja. Tunachunga paka tuone kamili kamili. Hakika.
Mais voilà, Fiston, on s'arrête là avec vous. Il est temps pour nous d'accorder la parole à notre invité, Ladislas Barako-Merwa, administrateur assistant en charge de l'administration territoire de Fizi. Merci et à la prochaine.
Merci à vous autant.
Pour écouter aujourd'hui la musique d'hier, rafraîchir nos oreilles de l'histoire de la musique, revivre des grands moments de la chanson congolaise, retrouver nos héros et chanter avec eux, ouvrons le bal avec la musique des années 50, 60, 70 et 80. Tous les dimanches, de 19h à minuit, heure de Kinshasa, et de 20h à 1h, heure de l'Est. Tous les lundis et mardis, de 21h à minuit, heure de Kinshasa, et de 22h à 1h, heure de l'Est. Au Capi Rétro sur Radio Capi avec DJ Daddy, changer de rythme.
Voilà, nous avons en ligne monsieur l'administrateur assistant en charge de l'administration du territoire de Fizi. Monsieur l'administrateur, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Alors, êtes-vous au courant de ce projet des routes qui est exécuté dans le secteur de Tanganyika dans votre territoire?
Oui, nous sommes au courant et nous suivons de près et de loin l'exécution de ces travaux. Nous louons d'ailleurs les efforts déployés entre le chef de secteur et le partenaire qui nous ont un peu financé là-bas. Mais nous n'avons pas, c'est-à-dire que les travaux sont en train d'aller lentement, mais sûrement, nous sommes en train de croire à l'aboutissement.
Ben oui, ben, la population exprime des doutes de voir ce projet aboutir parce qu'elle n'y a pas encore vu votre implication. Qu'en dites-vous?
Oui, nous, on se déploie et le territoire étant largement déconcentré, nous manquons le moyen de pouvoir subvenir au moyen d'aider les routes de dessert agricole. Nous attendons, si on aura des subventions, nous pouvons aider les travaux qui sont déjà en cours.
Alors, que comptez-vous faire pour les outils dont les ouvriers ont besoin pour les travaux? Est-ce que vous avez plaidé pour ce cas auprès des humanitaires?
C'est demain d'ailleurs, à l'heure où j'étais en train de causer avec vous, on était avec le représentant du PNUD de GTZ, nous sommes en train de préparer une réunion y afférent et qui pourra nous aider à voir le projet, à analyser le projet et à retenir certains.
Ben alors, est-ce que quels sont d'autres projets de routes de dessert agricole dans le territoire de Fizi?
Nous en avons beaucoup, nous en avons autant et le territoire de Fizi étant largement vaste, c'est un territoire qui a plus de 15 850 km² et qui a plus de 585 km de routes de dessert agricole et dont nous sommes en train d'augmenter d'autres comme les tronçons routiers qui est en train d'être entretenu par la population du centre de Fizi. Tronçons routiers longs de 15 km de Fizi à Sebele et il y a plusieurs autres routes que je peux vous citer ici. Kananda, Kilindi, Il y a Malinde Casimir qui a 79 kilomètres. Il y a Luiko Lumbwe Maindombe qui va vers le secteur de Lulenge. Il y a Lumbwe Kifuko qui est de 55 kilomètres qui va en secteur, c'est toujours en secteur de Lulenge. Je ne peux, si je continue à citer, je crois que je vais vous prendre trop d'état. On en a autant.
Mais monsieur l'administrateur, on a comme l'impression que les initiatives locales viennent que de la base. Donc ce sont des initiatives de la base. On a comme l'impression que l'autorité locale n'a aucune initiative.
Ouais, l'autorité locale a beaucoup d'initiatives. Nous, on est en train de se démener avec plusieurs partenaires, tant international que national, pour pouvoir réfectionner quelques routes. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, nous sommes avec celui de le directeur provincial des routes de dessert agricole de VDA qui est venu nous visiter pour voir les tronçons routiers Malinde-Nemba. Les tronçons routiers Malinde-Nemba où nous sommes en train d'entretenir ensemble avec le PNIT, notre partenaire le PNIT, le pont sur une rivière de Nemba.
Ben alors, hey. Allez-y.
Oui.
Allez-y.
Oui. Ouais, nous, on est en train de nous démener pour désenclaver, tant soit peu, les territoires de Fizi dans son entièreté.
Alors, si vous pouvez peut-être nous faire une idée, quel est l'état des lieux, si on peut faire l'état des lieux, des routes de dessertes agricoles dans le territoire de Fizi, c'est dans quel état se trouvent ces routes?
Oui, je vous ai dit que nous avons à peine 585 kilomètres de routes de dessertes agricoles déjà existantes, mais qui sont en mauvais état parce que ces routes sont non entretenues, mais praticables, mais en mauvais état. C'est-à-dire que l'essentiel des routes que possède encore le site Kivu, c'est nos routes sont parmi les routes que possède encore le site Kivu, praticables, mais en mauvais état.
Nous avons les
tronçons routiers Fizi Minembwe qui a 104 kilomètres entretenus par acte de mai qui est en mauvais état et acte a dit qu'il va renforcer le moyen, focaliser le moyen sur cette route pour jusqu'à rendre très praticable cette route Fizi Minembwe.
Oui, ben selon nos sources également, il y a quand même un déficit en infrastructure routière vraiment digne de ce nom, c'est-à-dire à Fizi, on n'a pas de route, bitumée avec goudron.
Oui, nous n'avons pas de routes bitumées, moins encore des routes en terre bien bâties, mais nous avons des routes qui ont été construites d'une façon traditionnelle depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et il y a d'autres routes qui sont en train d'être faites à la main par la population, mais qui sont praticables en moto et en voiture de campagne, mais en mauvais état où les véhicules un peu qui ne sont pas en bon état ne peuvent pas passer.
Oui, mais en tant qu'autorité locale, ne pensez-vous pas qu'il faut vraiment faire un grand plaidoyer auprès des humanitaires afin de financer quand même la réhabilitation de ces routes et moderniser les routes, ça serait quand même l'idéal.
Oui, nous on est en train d'inviter les ONG comme la GTZ, on invite le PNIT, on invite l'acteur, on invite tout le monde et on demande, on fait de plaidoyer pour que ces routes soient en ordre et pour alléger la vie de la population. Notre territoire est largement agricole, agro-pastoral. Nous voulons que ça puisse... D'ailleurs, à partir de notre territoire, nous pouvons même ravitailler tout le reste des sites qui font, puisque nous avons des étendues cultivables, mais sans route.
Oui, mais au fait, vous faites des plaidoyers, c'est bon, mais est-ce que vous aviez un cahier des charges qui reprend presque tout le besoin réellement exprimé pour, disons, la réhabilitation des infrastructures routières?
Nous sommes ensemble en train de revoir le cahier des charges qu'avait fait le prédécesseur. Nous sommes en train d'augmenter d'autres tâches qui ont été oubliées par les prédécesseurs, et nous allons mettre ensemble ces cahiers de charges, le remettre à qui des droits, c'est-à-dire nos partenaires tant national qu'international.
Ben oui, ben si c'est pas indiscret, ce cahier des charges, la rubrique normalement, le besoin réellement exprimé, peut vous coûter à peu près combien?
Bon, pas encore, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore abouti à évaluer et abouti à, au total de ce que peut nous coûter ça va être un travail énorme qui demande beaucoup de millions de dollars américains ou de francs congolais. Ça demande des milliers pour pouvoir mettre Fizi en ordre et le développer par le route.
Mais il faut tout de même aider la population qui travaille manuellement, qui pour peut-être se frayer un chemin et trouver à raccourcir la route de cette route de dessertes agricoles au niveau de Tanganyika. Il faut vraiment les aider.
Oui, c'est là un autre écrit. Nous avons beaucoup écrit au gouvernement provincial et au gouvernement national. Nous avons d'ailleurs, la fois passée, nous avons donné une décharge au chef de l'État qui est passé ici, et lui nous a rassuré qu'il va un peu aider, mais dans le cadre des routes purement nationales.
Voilà, Ladislas Barako Meroa, en tant qu'administrateur assistant en charge de l'administration du territoire de Fizi, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Merci.
Il est 11h à Kinshasa, 12h à Fizi. Flash Info avec Belinda Bosuma.
Bonjour, au sud Kivu, une personne a été tuée et 5 autres blessés au moyen d'un couteau à Bunyakiri, c'est dans le territoire de Kalehe. Cela fait suite aux exactions le week-end dernier perpétrées par des combattants hutu-rwandais des FDLR. Un député provincial élu du milieu qui donne l'information confirme aussi que certains ménages se sont déjà déplacés vers Karasi pour se mettre à l'abri de l'insécurité. L'honorable Baloumissa précise que ces personnes déplacées vivent sans aucune assistance. Au nord Kivu, cependant, 3 véhicules des ONG humanitaires ont été pillés hier à Nyanga, une localité située sur l'axe routier Goma-Rutshuru, à environ 60 km au nord de Goma. D'après la police nationale congolaise, district de Rutshuru, un véhicule de Caritas diocésain en provenance de Goma, avec à son bord un expatrié et un Congolais, a été stoppé puis pillé le matin vers 9h par les hommes armés non autrement identifiés. Ceux-ci ont emporté de l'argent, des téléphones portables et un appareil caméra. Aux environs de 13h au même endroit, 2 véhicules de l'ONG Rescue ont été également pillés par des hommes armés. Une position des FRDC vient d'être installée depuis hier soir à cet endroit pour y assurer la sécurité et tenter de retrouver les malfaiteurs, indique la même source. En Ituri, dans la province orientale, 2 détenus, dont un mineur, ont été appréhendés par la police dans la nuit de lundi à ce mardi à Bunia. Ces détenus, qui s'étaient évadés la semaine dernière de la prison centrale, ont été retrouvés dans les rues de Bunia, a déclaré le directeur de la prison. Un de ces prisonniers est condamné à 3 ans de servitude pénale pour vol. Notons qu'un autre détenu s'est évadé de la même prison dans la nuit de lundi à ce mardi, selon le responsable de cette maison carcérale. Pour rappel, plus de 80 prisonniers ont déjà fui la prison centrale de Bunia depuis la semaine dernière. Et puis, dans le Bas-Congo, certains commerçants de Mwanda, c'est à plus de 200 km de Matadi, se plaignent du commerce en détail dont se livrent les hommes d'affaires pakistanais arrivés récemment dans ce territoire. Un de ces commerçants a indiqué ce matin à Radio Kapi qu'un mémorandum sera remis aux autorités tant nationales que provinciales. Mémo dans lequel il déclare, je cite, « Nous ne sommes pas contre la présence des Pakistanais chez nous, mais nous n'allons pas tolérer qu'ils puissent vendre, par exemple, du sucre ou du savon en détail. Cette situation ne nous permet pas de progresser dans nos activités. » Fin de citation. Interrogé, le président de la Fédération des entreprises du Congo, Fek Mwanda, déclare être informé de la situation. Il a promis de donner sa position après la concertation qu'il aura dans les tout prochains jours avec les membres de la Fek et certaines autorités politico-administratives de la cité côtière. Okapi.
Nous allons retrouver à nouveau Belinda Bosuma à 12h. Pardon, à 12h, c'est plutôt Babel Mpongo. Merci Belinda d'avoir été de nôtre.
Merci JR.
Alors, on retrouve dans la tranche Okapi Action, donc demain, à partir de 9h, heure de Kinshasa. Nous poursuivons Okapi Action tout à l'heure, donc dans quelques instants d'ailleurs, nous allons faire l'escale à Mbandaka. Pour parler de la MONUC et l'ONG ESDIB qui organise une journée de réflexion sur la lutte contre l'impunité des auteurs de violences sexuelles. Comme vous participez nombreux à cette émission, nous vous rappelons nos numéros de contact, le 081-070-2050 pour les SMS et le 081-890-63-94 pour les appels. Ceux qui nous suivent sur la net, écrivez-nous à action@radiocapi.net.
Mama,
Antichoc avec Bozi Boziana, et là vous avez quand même eu à découvrir également la voix de Deyes Mukangi qui a fait la pluie et le beau temps au début des années 90, après que Shockstar ait connu une défection. Donc Bozi Boziana était parti pour créer son propre groupe qu'il a intitulé Antichoc, et là c'est parmi les tubes qui ont marqué l'histoire de la musique congolaise en début des années 90 avec l'arrivée de Deyes Mukangi, Joli d'été à côté. Mais voilà, c'était pratiquement la belle époque, donc l'âge de la fleur de cette musique congolaise. Nous allons continuer donc notre voyage à travers le pays. Après avoir été à Uvira, où on nous a signalé des initiatives locales, la population qui, normalement, se livre à des travaux de traçage d'une route et des dessertes agricoles dans les territoires de Fizi. Nous allons maintenant faire l'escale à Mbandaka, où également la MONUC et l'ONG SDIB organise une journée de réflexion sur la lutte contre l'impunité des auteurs des violences sexuelles.
Okapi, Radio Okapi. Mbandaka sur 103.
Mbandaka, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes, il y a une journée de réflexion qui a été organisée ce lundi sur la lutte contre l'impunité des auteurs des violences sexuelles dans la province de l'Équateur. Alors la question qu'on se pose, est-ce que c'était un échec ou la réussite dans cette lutte? Cette activité était organisée par la section genre de la MONUC en partenariat avec l'ONG Équipe de soutien au développement intégral humanitaire et la biodiversité, SDIP en sigle. Tous ces activistes ont participé à cette rencontre. Et là, on nous signale que nous avions également notre consoeur, Ghislaine Ntebo, qui s'est penchée d'ailleurs sur la question. Ghislaine, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, JR, je vous reçois à 5 sur 5.
Alors, tout d'abord, quel était l'objectif essentiel poursuivi par cette journée de réflexion organisée en Mbandaka?
L'objectif visé par cette rencontre qui a eu lieu dans la salle des réunions du bâtiment administratif était de renforcer les capacités d'intervention de ces acteurs dans le cadre de la prise en charge judiciaire et psychosociale des victimes des violences sexuelles et les conscientiser quant à l'ampleur du phénomène dans la province de l'Équateur. Les violences sexuelles, comme on le sait bien, est une réalité dans la province de l'Équateur. Souvenez-vous ici de ce qui s'est passé à Songomboyo et à Bolongo dans les territoires de Bongandanga, district de la Mongala. Après le verdict et la condamnation des auteurs, il y a plus de 5 ans, jusqu'à ce jour, les victimes attendent toujours d'être indemnisées. Voilà, j'ai une parenthèse qu'il fallait ouvrir pour illustrer l'opportunité de cette réflexion.
Alors, on sait que la journée des réflexions d'hier a été axée sur les violences sexuelles très récurrentes dans la province de l'Équateur. Mais à cette occasion, quel message a-t-il encore été transmis aux participants?
Pour revenir à la journée d'hier, le premier orateur, le président provincial de la synergie des luttes contre les violences sexuelles, M. José Imbusa, a brossé la situation des violences sexuelles à l'Équateur ainsi que la prise en charge médico-sanitaire et psychosociale des victimes, échec et réussite de cette prise en charge. Selon lui, de 2005 à 2008, 4194 victimes de violences sexuelles ont été enregistrées à travers la province de l'Équateur, dont 188 cas seulement en 2008. De ces cas, 3 seulement ont été réparés, c'est-à-dire que les victimes ont été indemnisées par les auteurs après jugement. Mais si les violences sexuelles persistent à l'Équateur, a indiqué M. Imbusa, c'est notamment par le fait que les auteurs sont en majorité des personnes investies de pouvoir, soit occupant un rang important dans la société. Ajouté à cela, la tolérance ou l'arrangement à l'amiable, la banalisation de ces actes par certaines coutumes et les faibles conditions de sécurité dans les prisons. Sur la réussite ou l'échec de la prise en charge médico-sanitaire et psychosociale des victimes des violences sexuelles à l'Équateur, écoutez le président provincial de la synergie de lutte contre les violences sexuelles.
Les violences sexuelles sont un phénomène de société et il n'y a que quelques zones qui ont été ciblées normalement pour la province de l'Équateur. Sur les 69 zones de santé qui comptent la province, il n'y a que 3 zones de santé qui ont été appuyées. Et là aussi, dans ces 3 zones de santé, ce n'est pas partout. Prenons par exemple à Mbandaka, il n'y a que la ville de Mbandaka, et à Basankusu et Bongandanga. Et vous comprenez que les autres districts où les violences se commettent, les violences ne sont pas prises en compte, c'est-à-dire ne sont pas réprimées correctement. Je peux parler d'une réussite par rapport aux moyens qu'on nous avait donnés, mais un échec par rapport au fait que les autres milieux n'ont pas été concernés par les violences, mais pourtant il y a les violences là-bas.
Voilà, alors Ghislaine, un autre thème a été tout de même abordé au cours de cette rencontre, à savoir la prise en charge juridique et judiciaire des victimes de violences sexuelles. Qu'en était-il au juste?
Effectivement, JR, ce deuxième thème a été développé par maître avocat Lambert Lissika. Il est le coordonnateur de l'ONG Équipe de soutien au développement intégral humanitaire et la biodiversité. S'adressant à l'assistance, maître Lissika a soulevé quelques défis majeurs qui constituent un frein dans la lutte contre l'impunité en matière de violences sexuelles. Parmi ces défis, signalons l'application effective de la loi du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, loi qui refuse des arrangements à l'amiable et prône la célérité dans les traitements de ces dossiers. En plus de cela, il y a l'absence des infrastructures pénitentiaires dignes de ce nom, car celles qui existent sont actuellement délabrées et favorisent plutôt les invasions des détenus. Cependant, à la question de savoir si la lutte contre l'impunité des auteurs de violences sexuelles à l'Équateur a été une réussite, suivez la réaction de maître Lambert Lissika, coordonnateur de l'ONG SDIB.
Il y a réussite, tout comme il y a échec. Réussite parce que il y a eu des progrès qui ont été enregistrés en termes de personnes qui ont été jugées pour avoir commis ce fait et qui ont été condamnées, les victimes qui ont obtenu des décisions judiciaires favorables. Lorsqu'on le voit par ce que le tableau indique, nous avons aujourd'hui en faveur de victimes 1 307 000 dollars de créances que ces victimes ont vis-à-vis de leur bourreau. Rien que par rapport à ces chiffres, ça montre déjà qu'il y a une réussite. Mais il y a échec par rapport à ce qu'on pouvait faire, mais à cause de moyens, non seulement le moyen matériel, le moyen logistique, parce qu'aujourd'hui, là, on peut porter l'affaire devant la justice. Mais lui, c'est qu'il doit aller donner un mandat. On ne met pas à sa disposition le moyen de déplacement.
Alors, comment les participants ont réagi à ces deux exposés développés par des orateurs?
Après un débat houleux dans la salle, les participants se sont repartis en groupe. Ils ont réfléchi sur les causes réelles et profondes de l'échec de la prise en charge judiciaire et psychosociale des victimes de violences sexuelles. Sans détour, ils ont relevé notamment la faible implication de l'État et l'insuffisance des structures de prise en charge comme des encadreurs formés. Justement sur les causes d'échec de la prise en charge judiciaire et psychosociale des victimes de violences sexuelles à l'Équateur, écoutez quelques-uns de ces participants.
Parmi les causes de l'échec de la prise en charge psychosociale constatée, nous citons faiblesse de l'implication de l'État. Ici, nous faisons allusion au gouvernement provincial. Insuffisance de moyens financiers et matériels. Nombre réduit de bailleurs de fonds qui interviennent dans cette prise en charge. Insuffisance des sites projets. Parce que jusqu'en ce jour, il n'y a que Mbandaka, Bongandanga et Bassankoussou qui sont pris en compte. Alors que les trois ne représentent pas l'Équateur.
L'éloignement de la justice des justiciables en termes d'infrastructures et du personnel. Inexistence et ou délabrement avancé des infrastructures pénitentiaires. De la loi sur les violences sexuelles, les us et coutumes en matière sexuelle, le non-respect de la loi sur les violences sexuelles, la corruption des magistrats.
Oui, bien, Ghislaine, c'est bon de déceler les causes de l'échec, mais qu'est-ce qu'ils ont pensé apporter comme solution à ces derniers?
À ces causes, JR, des recommandations ont été formulées. Suivez quelques-unes.
Quant aux recommandations, nos recommandations, nous les avons formulées d'abord par rapport à l'État, où nous disons que l'État doit budgétiser la lutte contre les violences sexuelles et l'Assemblée provinciale doit veiller à l'exécution du budget. Nous avons dit qu'on doit mettre dans le programme régulier des agences du système des Nations Unies un financement en faveur de l'accompagnement psychosocial. Et nous avons aussi souhaité que l'on étende les sites projets sur toute la province.
Installer effectivement les tribunaux de paix et de grandes instances tels que prévus par la loi. Améliorer les conditions sociales et salariales du personnel pénitentiaire et judiciaire. Vulgariser la loi sur les violences sexuelles et cela doit être fait par la société civile ainsi que le pouvoir judiciaire.
Donc tout s'est clôturé sur une bonne note, Ghislaine.
Tout à fait, JR.
Voilà, on s'arrête là avec vous, Ghislaine, à moins que vous ayez un autre élément à ajouter.
Oui, c'est juste signaler que dans son mot de clôture, M. Guérin, il y a le chef de bureau de la MONUC, Mbandaka, qui est initiatrice de cette réflexion. Donc, avait signalé que ces recommandations seront incorporées dans une déclaration finale qui sera mise à la disposition des acteurs ou intervenants dans ces domaines. Et pour sa part, M. Jean-Claude Baïndé, également présent à cette rencontre, vous le connaissez bien, c'est le gouverneur intérimaire des Équateurs, a indiqué que cette journée donne l'occasion à chacun de réfléchir sur les droits de la femme et de l'enfant, aussi bien de prendre conscience du fléau qui menace la province de l'Équateur, à savoir les violences sexuelles. Voilà tout.
Merci Ghislaine et à très bientôt.
À bientôt JR.
La cantine du jour.
J'aime beaucoup parce qu'elle écrit bien. On écrit les chiffres 1, les chiffres 2.
Okapi les petits.
Avec des mamans par au marché.
Okapi maman. Du lundi au vendredi, de 12h15 à 15h hors de Kinshasa.
Nous avons en ligne Maître Lambert Lissika, coordonnateur de l'ONG SDIB, équipe de soutien au développement intégral, humanitaire et la biodiversité. Maître Lambert, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, la MONUC, en collaboration donc avec votre ONG, a organisé une journée de réflexion sur la lutte contre l'impunité des auteurs de violences sexuelles. Aujourd'hui, s'il faudrait qu'on puisse faire un état des lieux après cet atelier, que dirions-nous? Est-ce que il y a eu échec ou réussite dans la lutte contre l'impunité des auteurs de violences sexuelles dans la province de l'Équateur?
Eh bien, comme j'avais dit hier à Ghislaine, qu'il y a en même temps réussite, tout comme il y a échec. Et lorsque nous parlons de réussite, c'est lorsqu'on tient compte des nombres de dossiers qui ont été prononcés et qu'un certain nombre de victimes ont obtenu réparation, du moins sur le plan formel. Mais lorsqu'on voit l'exécution de ces décisions, nous prenons par exemple le cas de Songomboyo, où des gens étaient condamnés. Allez-y voir dans le prison. Aucun condamné n'est en train de purger sa peine. Et ce ne fait qu'encourager les autres à continuer à commettre ce bévis. Lorsqu'on voit également le cas de pillage de Mbandaka, tous ceux qui ont été condamnés sont plus là. Parmi les victimes qui ont obtenu réparation, aucune, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a obtenu réparation. Donc lorsqu'on voit tout ça, on se dit, il y a échec, tout comme il y a réussite. Donc voilà.
Mais voilà, alors la réussite et l'échec, la responsabilité, en ces deux cas de figure, incombe à qui? Est-ce aux différentes ONG ou bien au manque d'implication de gouvernants?
Non, là, la volonté manifeste de manque de volonté de la part du pouvoir exécutif, eux-là. Puis comment ces actions menées par les ONG ou par le cours de tribunaux peuvent avoir de l'impact lorsqu'il n'y a pas l'infrastructure pénitentiaire? Tout l'infrastructure pénitentiaire que nous avons date d'avant la colonisation. Et aucun programme n'a été instauré dans ce sens. Donc s'il n'y avait pas l'Agence des Nations Unies qui appuie les missions foraines, on n'aurait même pas organisé tous ces procès, où des gens pourraient répondre des actes qu'ils ont dit commettre. Donc, de leur part, on remarque qu'ils ne s'impliquent pas dans cette lutte. Or, c'est sa population. Ils gouvernent une population. Et les violences sexuelles de notre province est devenu un problème des sociétés. Mais c'est à eux de donner l'impulsion dans cette lutte. Ils ne le font pas.
Mais au niveau des ONG...
Et dans le budget, on n'en met pas ça dans l'ordre du jour.
Mais non, Maître Lambert Lissika, aujourd'hui, les ONG qui doivent normalement, les organisations non gouvernementales qui doivent normalement aider le gouvernement dans cette tâche-là, disons, ces ONG n'arrivent pas à faire le travail comme ils font. Et pourtant, ils gagnent beaucoup d'argent auprès des partenaires traditionnels du gouvernement. Ben, en réalité, sur le terrain, le travail n'est pas correctement fait.
Non, je ne peux que vous donner comme exemple à travers le chiffre. En 4 ans, dans notre pays de l'Équateur, le travail fait par les ONG font que environ 4 000 victimes ont pu obtenir, ont été identifiées, oui, ont obtenu de l'assistance, médico-sanitaire, parce que tout le monde qui a de problèmes comme ça va dans les centres de santé. Et en ce qui nous concerne, dans le volet judiciaire, environ 900 victimes nous ont saisi. Nous avons posé ces problèmes en justice. Je vous donne que les cas de Mbandaka, pour ne pas aller trop loin. De décembre à nos jours, il y a 47 dossiers qui se trouvent devant le tribunal de grande instance. Mais nous n'avons que 3 magistrats. Pour le moment, ils sont en fond et en abattant en Rousseau. Mais comment ces dossiers peuvent évoluer? Il y a la volonté qui est là. Mais qui doit affecter le magistrat? Et même, certains dossiers sont bloqués, ils ne peuvent pas avancer parce que les détenus, les présumés auteurs, on ne peut pas les appréhender. Le magistrat n'a pas le moyen pour mettre à la disposition des huissiers pour aller mettre la main sur les présumés auteurs. Les dossiers pareils ne peuvent pas évoluer tant que la volonté manifeste des ONG se trouve là, mais buté à un problème réel de manque de moyens et de capacités opérationnelles des instances judiciaires et des manques de l'infrastructure. Voilà.
Ben oui, ben aujourd'hui, il y a quand même un Régisco qui appuie, disons notre gouvernement pour la restauration de la justice au Congo, en construisant notamment des cours et tribunaux dans les différents sites du pays. Aujourd'hui, est-ce que Mbandaka a eu quand même à bénéficier également de ce genre d'action auprès de certaines ONG internationales?
Bon, ici, dans notre province de l'Équateur, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies qui a pu apporter un appui en termes de réhabilitation. Ils ont réhabilité de manière légère 10 cellules dans notre prison. Mais par rapport au nombre de cas qui sont commis, cela paraît insuffisant parce que ça n'arrive pas à résoudre efficacement le problème. Nous pensions qu'avec l'acte posé par le Haut Commissariat, le gouvernement allait suivre. Évidemment, ils ont suivi timidement en réhabilitant 20 autres cellules. Mais cela ne résout toujours pas le problème. Il s'agit de réhabiliter totalement ce prison de Mbandaka. Et actuellement aussi, le Haut Commissariat le fait pour Lissala. Évidemment, c'est une réhabilitation légère compte tenu de moyens mis à la disposition. Mais nous voulons que ce soit réellement un programme qui permet de réhabiliter où on peut mettre un nombre suffisant. Nous disons par exemple 47 pour de décembre à nos jours. On ne peut pas mettre 47 détenus dans l'état actuellement qu'on a réhabilité pour le moment. C'est 30 cellules qui sont opérationnelles. On ne peut pas mettre 47 dans 30 cellules. Donc là, c'est même être en deçà des minimums acceptables pour les personnes en détention.
Ben alors, pour une prise en charge judiciaire, il s'avère indispensable que les centres pénitentiaires soient réhabilités?
Tout à fait, c'est indispensable. C'est un outil par excellence si on veut lutter contre l'impunité. Parce que les gens qui sont condamnés, ils doivent purger leur peine. Non seulement ça, il faudrait également un nombre suffisant de magistrats qui peuvent traiter de ce dossier. Et c'est ce qui pose problème dans les cas de notre province. Il y a aussi ce qui décourage les victimes, c'est que lorsqu'ils posent leurs problèmes devant la justice, qu'ils gagnent après une procédure assez frustrante pour eux, parce que c'est pas toujours agréable d'aller raconter devant le juge, devant le magistrat, les actes indignes que vous avez subis. Et lorsqu'ils arrivent à la fin, et l'exécution pose problème en termes de réparation civile. Et cela décourage certaines victimes à venir parce qu'ils se disent, mais ce qui a été là avant nous, on voit pas quelle a été la réparation obtenue sur le plan judiciaire. Donc, c'est tout ça qui pose problème.
Oui, ben la justice congolaise, ce n'est pas un secret, fonctionne à deux vitesses. Aujourd'hui, la plupart des bourreaux qui ont suffisamment de moyens influencent la justice et ils ne sont pas inquiétés.
Oui, ça c'est vraiment un cas qui illustre parce qu'on a dans notre forêt de l'Équateur qu'on ait deux cas d'espèces où nous sommes allés saisir la justice alors que la loi actuelle dit que la qualité officielle est inopérante parce que c'est l'article 10 qui le prévoit, 10-10 qui le prévoit, mais on a déposé plainte pour nous et pour le compte des victimes et jusqu'à ce jour, ça fait pratiquement 8 ans, l'organe poursuivant ne pose aucun acte tendant à mettre en mouvement l'action publique. Donc tout ça laisse également à désirer, tant que cette personne-là, je me dis que cette personne-là n'a pas payé le pot de vin, mais la réalité est qu'il n'a rien payé, mais ce sont les autorités judiciaires qui doivent poser des actes.
Oui, ben, disons, à la fin de cette journée des réflexions, sûrement il y a eu des recommandations qui ont été formulées, adressées à tous ceux-là qui sont engagés dans la lutte contre l'impunité des auteurs des violences sexuelles. Quels sont les garde-fous ou les mécanismes mis en place pour qu'effectivement ces recommandations soient respectées? Parce qu'il faudrait bien le reconnaître que nous avons un problème d'applicabilité de textes qui sont souvent ressortis de nos différents ateliers ou de différentes rencontres, des réflexions.
C'est ça justement. Nous allons, dans cette recommandation, essayer également de récapituler ce qui a déjà été fait dans les autres forums en termes de recommandations. Nous voulons également, bien que, comme on a prévu par le chef du bureau de la Monique, Équateur, de mettre ces supports à la disposition de tous les décideurs, de tous les acteurs. Mais nous voulons instaurer également un comité de suivi pour qu'en tout moment on puisse rappeler qu'on a eu tellement à faire des recommandations qui ne suivent pas d'exécution. Et c'est ce comité-là qui fera
le suivi.
Si jamais le suivi, et si jamais ça ne s'exécute pas, on aura toujours à rappeler ça et nous comptons sur la presse pour que cela leur soit rappelé à tout moment.
Maître Lambert Lissika, nous rappelons que vous êtes coordonnateur de l'ONG ESIB, équipe de soutien au développement intégral humanitaire et la biodiversité. Merci d'avoir été de nôtre et à très bientôt.
Merci beaucoup.